Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Merci à vous, encore une fois, de votre fidélité, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur Gameblog, mais aussi sur iTunes, Spotify ou encore Spotify. Non, Spotify.
Spotify.
Ah, Spotify. Ah, ça pourrait être un bon jeu, Spotify.
Le crossover de la plateforme de streaming.
Spotify ou encore Deezer. Cette semaine avec moi, vous avez déjà entendu deux d'entre eux. Il y a trois invités, trois intervenants. Nous avons pour commencer Yann. Comment ça va, Yann ?
La forme.
Bon, Yann, qui n'est pas souvent dans le podcast, là, il a un petit peu de matos, donc ça va être l'occasion pour lui d'en parler. On en parlera une fois qu'on déballera le sommaire. Nous avons aussi Thomas, coucou. En direct du mur de briques.
Et oui, et de cette bière blafarde que génère ce magnifique ring, qui me fait un teint aller du plus bel effet.
Absolument, on est vraiment en été avec Thomas. Et Romain, évidemment, toujours en direct de la ville des travaux, le Valois-Perret.
Ouais, ils font table rase du passé dans tous les sens du terme.
Exactement. Bon, nous, on va parler avenir, par contre. Et l'avenir, c'est donc deux thèmes Spotify. Cette semaine. Deux thèmes dont nous allons parler sur Spotify, évidemment. Donc, le premier, ça concerne Sega, parce que la semaine dernière, c'était les 60 ans de la société japonaise, le 3 juin, pour être exact. Il y avait des annonces soi-disant révolutionnaire, qui nous attendait. Bon, on va faire le débrief rapidement parce que c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Et le deuxième thème, ça concernera trois tests effectués sur Switch par Yann, justement. On commencera avec Xenoblade Chronicles Definitive Edition. On continuera avec Shantae and the Seven Sirens. Et pour finir avec Wonderful 101 qui a été remasterisé. Et on va voir si tous ces jeux-là valent le coup si vous avez une Switch. Je crois aussi que d'ailleurs pour Shantae et Wonderful 101, ils sortent sur d'autres plateformes. Mais pour le coup, ce sera uniquement sur Switch qu'on en parlera. Et comme d'habitude, vous le savez, on terminera avec l'anniversaire, le hors-jeu. Et avant tout ça, il y aura... Il y a 10 ans sur Gameblog, mais tout de suite, il y a d'abord le win et le fail. Et le win, mon cher Thomas,
oui.
Le win, ça concerne justement la Switch, parce que la Switch, la crise du Covid-19, connaît pas.
Ben non, elle fait plutôt ses affaires. Alors si malheureusement l'hôtellerie et la restauration souffrent un petit peu de la pandémie et du confinement, Nintendo peut se frotter les mains puisque on a eu le bilan définitif de l'année fiscale 2019-2020 et il se trouve que sur le seul mois de mars, ce sont 4,2 millions de Switch qui ont été vendus et non seulement c'est pas rien, mais en plus rapporté au total de l'année, on est à 20% en fait des ventes de Switch sur l'exercice fiscal. Donc c'est quand même un sacré score pour Nintendo, qui a évidemment profité de la sortie assez opportune d'un certain Animal Crossing New Horizons qui est sorti à peu près au même moment, qui a forcément bien aidé puisque c'est également le meilleur démarrage pour la Switch au Japon, avec pas loin de 2 millions de cartouches physiques écoulées malgré la pandémie. On était à 1,88 millions, donc là on ne parle même pas des ventes dématérialisées. Je vous laisse imaginer un petit peu comment les actionnaires se sont frottés les mains. Et du coup, ça permet de contrebalancer un petit peu l'année fiscale 2018-2019 qui n'avait pas atteint forcément les objectifs puisque Nintendo tablait une nouvelle fois sur 20 millions de consoles écoulées après une première bonne année et n'en avait finalement vendu que 17. Là, on imagine que pour le coup, les actionnaires qui sont conviés dans quelques semaines à une assemblée générale vont être plutôt ravis. Le problème, c'est que la session de questions-réponses a été d'office écourtée, donc on aura peut-être moins d'informations que d'habitude sur ce qui s'est passé et sur ce que nous réserve Nintendo à l'avenir. En tout cas, avant l'arrivée des consoles de nouvelle génération, la Switch se porte merveilleusement bien. Et j'ai regardé, elle est pour l'instant 13e au classement des consoles les plus vendues de l'histoire. Évidemment, ça va continuer de grimper dans les mois et les années à venir.
Ah oui, ça risque, oui, effectivement.
Et elle pourrait même être au-delà de ça. Parce qu'il faut se souvenir que dans certains territoires, dont le Japon principalement, il y a encore de belles pénuries de consoles et les consoles sortent des magasins aussi vite qu'elles y entrent. Et donc, c'est la crise bénéficie à certains. C'est toujours comme ça. Et là, parmi les bénéficiaires, il y a clairement Nintendo.
Ah bah oui, c'est plus que bénéficiaires dans un cas comme celui-ci. Et on ne parle pas d'Animal Crossing, évidemment, qui est encore en tête des ventes, notamment en France. Il a été délogé, je crois, aux États-Unis ou au Royaume-Uni par un autre jeu. Mais là, pour l'instant, il s'en sort toujours très très bien. Il faut croire que les gens ont envie de se balader sur une île. Et maintenant...
Et de cultiver des navets.
Ouais, et de revendre. Tu les cultives pas, hein, tu fais que les revendre, hein, les navets.
Ah, tu fais que les revendre?
Ah ouais, tu les achètes le dimanche, tu te fais enfler, et la semaine d'après, bah, te fais enfler aussi si tu trouves pas le bon magasin.
Moi qui croyais que c'était un jeu de jardinage pacifique, en fait, c'est un truc qui te pousse.
Ah, tu peux cultiver des choses, mais pas les navets.
Non, tu peux rien cultiver.
Ah non, c'est une ode au capitalisme.
Ah bon, tu peux plus.
Je me suis fourvoyé.
Moi, j'ai pas joué à celui-ci, mais dans le précédent Animal Crossing, tu pouvais planter des arbres fruitiers, etc., etc.
Ah oui, tu peux faire ça, mais tu peux pas cultiver encore pour l'instant des légumes. Les navets, tu fais que les acheter le dimanche. Tu te fais avoir, et puis bah la semaine suivante, tu te refais avoir.
Je pensais aux fruits, c'est pour ça.
Ah bon, oui, bon après les fruits, ça c'est une autre histoire.
C'est aussi un business.
Ouais, exactement. C'est un business. Pas très juteux, pas toujours, mais voilà. Si vous avez des bons plans navets, n'hésitez pas à partager. Hein, dites-le. Il y a Elijah Wood viendra peut-être vous voir. N'oubliez pas. Ouais. Alors, le fail, Romain. Le fail de la semaine, ça concerne encore la Switch. Ça concerne cette fois l'eShop. Parce qu'on y trouve souvent des choses, normalement des choses qui sont très appropriées pour tous les publics. Et cette fois, il y en a un, il est passé à travers les mailles du filet.
Bah, s'il y a bien un consolier qui fait attention à ce qu'il propose au jeune public, c'est Nintendo. Mais parfois, il peut y avoir des bugs. Et là, en l'occurrence, on parle d'un jeu qui s'appelle Do Not Feed the Monkeys. C'est un jeu indé d'aventure et de gestion et de simulateur de vie, un peu tout ça mélangé, mais qui passe par caméra de surveillance interposée. Et il s'avère qu'en fait, c'est pas du tout un jeu tout public. C'est du pixel art, mais malgré tout, les thématiques abordées sont vraiment adultes. Il est question parfois de sexualité, etc. Et même dans les graphismes, il est question de nudité. Sauf que il est apparu il y a quelques jours sur l'eShop, spécifiquement américain, mais peut-être dans d'autres territoires aussi, comme étant tout public. Et en plus, histoire de rendre la chose encore plus compliquée, il y avait une démo. Il y a fait une démo jouable, et donc il y a des gens qui se sont rapidement aperçus qu'en téléchargeant la démo, et bah, dans les 5 premières minutes du jeu, il y avait de la nudité. Et donc c'est clairement pas un jeu tout public. Et donc, ce qui signifie que potentiellement des enfants ont pu télécharger ce jeu, même si on a tous à un moment ou à un autre, quand on était enfant, joué à des jeux qui n'étaient pas de notre âge, ça ne nous a pas traumatisés pour autant. On sait qu'ils font très attention avec la classification, en particulier aux États-Unis, avec toutes les histoires de puritanisme, etc. Et donc, ouais, ça a été vite retiré une fois que le truc a commencé à faire du bruit et que Nintendo s'est rendu compte de la bourde. Le développeur, enfin l'éditeur du jeu qui s'appelle Alawar, a expliqué qu'ils n'avaient pas cherché à tromper leur monde ou à faire de mauvaises blagues ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais cherché à cacher le contenu de leur jeu. C'est une pure maladresse. Alors, je ne sais pas trop à quel niveau elle se passe, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, tous les jeux sont classifiés par le SRB. Et donc, avant d'être transmis aux différentes plateformes, les jeux reçoivent une classification. Donc, peut-être bug dans les systèmes de l'ESRB qui a transmis de mauvaises informations à Nintendo et qui ensuite a classé le jeu dans l'offre tout public de l'eShop. Mais il s'avère qu'une fois que le truc a été découvert, évidemment, le jeu a été retiré de la vente et la démo supprimée, etc. Et là, maintenant, ils sont en train de reclassifier le jeu et ils attendent une nouvelle classification pour pouvoir le remettre en ligne. Nous, clairement, en tant qu'Européens, et plus particulièrement de Français, ça nous fait ni chaud ni froid, cette histoire. On va pas se mentir, parce que nous, ça c'est pas un bout de sein qui va nous choquer.
Ouh là là.
Mais on sait qu'aux États-Unis, c'est pas forcément la même. Et ils ont esquivé la grosse polémique, mais peut-être que si les graphismes avaient été plus réalistes, ça se serait peut-être passé différemment. En tout cas, petite histoire plus rigolote qu'autre chose dans le fail de cette semaine.
Très bien. Bon, bah, comme chaque semaine, maintenant qu'on en a fait le tour avec le win et le fail, on va passer à il y a 10 ans sur Gameblog. Alors, Thomas, il y a 10 ans sur Gameblog, tu as retenu 3 news en particulier. La première concerne Shigeru Miyamoto, dont on a déjà parlé la semaine dernière, si je ne m'abuse.
Exactement, mais en même temps, j'ai envie de te dire, on ne s'en lasse pas. Et alors là, pour le coup, c'était auprès de Chronic Art, en fait, qu'il s'exprimait. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir l'interviewer à la veille d'une remise de décoration. Et ce qui était intéressant, c'est que, une fois de plus, le message de Miyamoto était un petit peu à contre-temps du reste de l'industrie. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il expliquait que, de son point de vue, sa façon de faire des jeux n'avait pas changé, finalement, depuis ses débuts, même s'il était évidemment moins impliqué dans les détails au niveau des différents développements. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il a explicitement expliqué que lui ne faisait pas de jeux à message et que c'était quelque chose de volontaire, de réfléchi, qu'il avait juste envie d'explorer ses envies, ses propres centres d'intérêt et ce qu'il touchait en fait au quotidien. On sait que la légende en tout cas veut qu'il ait eu notamment l'idée d'un certain Pikmin en rêvant d'une espèce de danse avec ses légumes dans son propre jardin. Et là pour le coup on était encore dans cette logique et j'ai trouvé ça intéressant de se réclamer en fait d'expériences comme ça vidéoludiques, on va dire pas neutres mais en tout cas dénuées d'une portée politique, sociale ou quoi que ce soit. Et ce qui était rigolo aussi c'est qu'il nous a donné pas mal d'indices sur ce qui allait nous attendre durant les années qui allaient suivre puisque l'une des dernières questions qu'on lui posait, c'était justement sur l'après. Et Miyamoto, avec un sourire en coin, expliquait qu'il ne pouvait évidemment pas dire sur quoi il travaillait, mais qu'il venait d'adopter un chat et qu'il fallait du coup sans doute y voir un indice. Et on sait que l'année d'après est sorti Nintendogs plus 4, ce qui était en rumeur depuis un petit moment. Et je me demande si c'était pas aussi un début d'indice pour l'épisode
3D World.
Voilà, l'épisode 3D de Mario qui allait suivre sur Wii U. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de ressortir cette courte interview qui était disponible sur Chronic Art. Et il y a 10 ans, on apprenait aussi l'arrivée d'un tout nouveau salon dans le petit milieu des salons du jeu vidéo parisien, puisque c'était la semaine du 7 juin 2010 qu'on apprenait l'arrivée d'une certaine Paris Games Week, première édition qui allait donc se tenir cette même année 2010 et qui, rappelez-vous, à l'époque, devait aussi affronter le Festival du jeu vidéo et le Micromania Game Show qui étaient d'autres salons parisiens qui avaient été organisés durant les années précédentes. Là, pour le coup, le CEL avait décidé finalement de prendre un petit peu la chose en main, d'organiser son propre salon et on nous annonçait voilà l'arrivée, évidemment, à la porte de Versailles de la première édition de la Paris Games Week qui tablait d'entrée sur 100 000 visiteurs la première année. Alors évidemment, selon les manifestants et la police, c'était pas forcément la même soupe, puisque d'un côté, on nous parle de grosso modo 56 000 entrées, de l'autre, plutôt 120 000. Donc pour les organisateurs, c'était un pari réussi sur cette première année. Pour le comptage officiel de la police, c'était quand même pas la même soupe. Mais dès la première édition, on avait quand même eu la présence de Kazunori Yamauchi, le président de Polyphony Digital, qui était là, avec quelques autres invités. Et bon, on sait bien évidemment que le succès n'a pas été démenti, puisque au fur et à mesure des années, le public a répondu présent. Le festival est pérenne, même si, évidemment, comme tous les festivals de l'année 2020, il n'aura pas lieu cette année. On se retrouvera a priori l'année prochaine. Mais il faut quand même se rappeler que on a vécu quelques moments forts, entre guillemets, avec la Paris Games Week. Ça va de la conférence Sony qui avait dévoilé notamment Ghost of Tsushima, qui nous avait permis aussi de poser les yeux sur un trailer de The Last of Us Part 2 qui avait fait beaucoup, beaucoup parler en 2017. Et puis, c'est aussi, dans un autre ordre d'idées, la polémique avec Call of Duty Ghost en 2013 et le fameux
Moïse.
Voilà, dont tout le monde se rappelle. Pas d'édition 2020, donc comme je vous le disais, en tout cas l'année dernière, selon le comptage officiel, puisque la police a arrêté de compter les manifestants, on avait 317 000 entrées pour l'édition 2019, ce qui atteste quand même de la bonne santé du salon.
Il y a un peu de polémique quand même autour du compteur des visiteurs du comptage des visiteurs de la Paris Games Week. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais il se pourrait que il soit un petit peu
gonflé.
Ouais. Mais j'arrive pas à me souvenir, il y en a eu deux ou une seule conférence PlayStation à la Paris Games Week. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a eu deux à deux moments différents.
Il y a eu celle de 2016.
Il y a 2017. Une en 2017, c'est celle dont on a le plus parlé.
Oui, ça c'est 2017, ouais.
Il y en a une en 2017, parce qu'il me semble qu'il y en a une à laquelle j'étais, et l'autre à laquelle j'ai pas été. Il y en a une où il y avait eu Détroit, non ? Où c'était Cara...
C'est peut-être 2015, celle-là, ou 2016.
Je crois qu'il y en a eu deux, mais pas à la suite. Mais je peux me tromper.
Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de performances auditives qui ont été perdues dans les couloirs de la Paris Games Week pendant ces 10 années. La troisième news, donc, d'il y a 10 ans, mon cher Thomas, ça concerne la PSP et une performance extraordinaire.
Bah ouais, pour une fois, on va vous parler des charts au Japon, puisque ce cher Julo se faisait un plaisir de chaque semaine nous récapituler un petit peu les ventes, les meilleures ventes hardware et software sur l'archipel. Et là, pour le coup, c'était quand même assez incroyable, puisque la PSP était devant la Nintendo DS. Alors, selon la boule de cristal de Julo qui se risquait à des pronostics, c'était dû à une annonce de baisse de prix qui allait intervenir sous une dizaine de jours, et aussi l'arrivée de nouveaux coloris. Donc l'idée était de se dire que les joueurs japonais avaient peut-être reporté leurs achats pour profiter justement ou d'une baisse de prix ou de nouveaux coloris, que du coup la PSP en avait un petit peu profité pour grappiller la première place. Alors à 4000 exemplaires près, hein, évidemment, on était à 24000 ventes de PSP pour 20000 ventes de DS. Et j'ai vérifié, du coup, si les prédictions de Julo étaient exactes. Et pour le coup, elles le sont, puisque à partir du moment où la DS a baissé de prix et où les nouveaux coloris sont arrivés, boum, elle est repartie en flèche après deux semaines un petit peu molle, puisque dès la fin du mois de juin, on était à 53000 exemplaires vendus. Donc, Julo avait raison, ce qui n'était pas le cas de toutes les prédictions qu'on avait pu voir cette semaine sur Gameblog, loin de là.
Ouais. Mais les baisses de prix, de toute façon, sur les consoles populaires, c'est toujours radical. Quand il y a une baisse de prix, les ventes sont boostées quasiment immédiatement. À chaque fois, ça se dément pas. Mais en attendant, même si la DS a fini premier, les deux consoles ont fait une très belle carrière commerciale. Et la preuve, hein, s'il y a eu une PS Vita après, c'est que la PSP elle a très bien marché en son temps.
Ouais, et puis le Monster Hunter ayant une telle surpuissance au Japon, et les versions PSP s'étant multipliées au cours de ces années-là, ça a évidemment boosté les ventes de cette console, qui en plus était en termes d'émulation et de choses pas forcément très légales, aussi a été très utilisée.
Regardes dans les charts annuels de l'époque où la PSP était au sommet de sa forme, je parle en France, hein. Il y avait dans les top 20 de l'année, c'était pas rare qu'il y ait des jeux PSP, hein. Moi je me souviens, dans le métro parisien à l'époque, des PSP t'envoyaient sans arrêt, hein. Les mecs qui jouaient à PES ou FIFA, je sais plus, sur leur PSP t'envoyaient sans arrêt. C'est une console qui a vraiment très bien marché.
Et pourtant, dans le futur, on ne retiendra que la PS Vita. Et c'est ça qui est quand même complètement fou. Bon, on en a fini avec Idealisant sur Gameblog. Maintenant, nous allons passer au gros du podcast. Le premier thème. Donc, un thème sur lequel nous allons tous nous exprimer, parce que nous avons tous été plus ou moins touchés par ce que Sega a annoncé la semaine dernière pour ses 60 ans. 60 ans, c'est pas rien pour une entreprise comme Sega, qui a connu des hauts, des bas, et qui, aujourd'hui, on peut le dire, c'est un peu foutu de notre gueule la semaine dernière. Je ne prends pas parti, je vous le dis tout de suite. Donc, on va commencer dans un ordre qui n'a rien à voir avec l'ordre des annonces exactes, mais on va traiter les différentes choses qui sont apparues sur Gameblog. La première chose, c'est une interview du PDG de Sega, donc, qui s'est amusé en vidéo à un petit peu troller les gens qui avaient des espoirs.
C'était pas une vidéo, c'était du texte.
Ah, c'était du texte ? Ah, je croyais que c'était en vidéo. Autant pour moi.
Alors, en fait, j'explique. Tout d'abord, Sega fête officiellement ses 60 ans, mais si la date choisie du 3 juin 1960, ça ne s'appelait pas encore Sega. C'était l'entreprise qui est devenue Sega peu de temps après. Mmh. Et même, en fait, au fond, s'il voulait, il pourrait même remonter encore plus loin que ça. Enfin bref, ça c'est un...
Mais ils ne sont pas comme Nintendo, ils n'ont pas 158 ans ou je ne sais pas.
Mais l'histoire de l'interview, c'est sur au Japon, Sega a créé un site spécial pour les 60 ans, avec différents rappels historiques. C'est là où ils ont dévoilé le fils de Segata Sanshiro qui s'appelle Segashiro. Et donc c'est justement sur ce site-là qu'il y a une interview de Haruki Satomi, le PDG actuel de Sega, et une interview réalisée par Segashiro, justement. C'est donc un personnage fictif qui interroge une personnalité bien réelle.
Bah, il a le droit, son père, à sauver Sega dans les années 90, quand même, je veux dire.
Et donc, il y a différentes rubriques, différentes parties dans l'interview, et dont une qui est explicitement notée comme étant consacrée à un éventuel nouveau hardware Sega. Et donc, dans l'interview, il y a Segashiro qui fait « Ah oui, Il y a une question que j'aimerais bien vous poser, mais j'ose pas trop. Et donc, Satomi lui fait non, mais allez-y. Et donc, il lui fait oui, est-ce que vous. Enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais c'est un truc du genre est-ce que vous allez faire une nouvelle console Sega? Et là, la réponse c'est je voulais profiter de cet anniversaire pour. Et là, t'as une didascalie de Sega Shio qui avale sa salive, genre. Et ensuite, il enchaîne et il dit. En fait, oui, c'est une annonce que j'aimerais bien faire, mais en fait, non, il n'y a rien. Et ensuite, il passe sur le reste de l'interview. Et donc, c'est du pur troll, parce que on sait que les fans les plus acharnés de Sega, ça fait 20 ans, et, enfin quasiment, et ils n'ont toujours pas lâché le truc, tu vois. Ils continuent d'espérer, dès qu'il y a un petit teasing de Sega ou quoi que ce soit qui pourrait potentiellement être en rapport avec Sega, ils continuent d'espérer l'annonce d'une nouvelle console, d'une Dreamcast 2 ou je sais.
La vidéo qu'on a vue, justement, pour ça, c'est sûrement à cause de ça que j'ai parlé de vidéo tout à l'heure, la vidéo de Sega Shiro qui est parue la semaine dernière, dans laquelle on voit qui est le mystérieux adversaire de Sega, etc. La vidéo finit quand même sur Saturne. Donc tu te dis, ah, c'est peut-être un teasing pour une Saturn 2, une Saturn Mini ou un truc dans le style. Tu vois, ils envoient des faux indices quand même.
Ah ouais, ils font du teasing qui mène à rien. Et c'est ça qui est formidable.
Est-ce que c'est pas ce que font les gens passés un certain âge? Tu vois, peut-être qu'à 60 ans, des fois, tu commences un peu à perdre la boule et à promettre monts et merveilles sans trop savoir de quoi tu parles.
Et c'est une stratégie marketing qui est assez curieuse. Et pour pas mentir, elle étonne même certaines personnes chez Sega. Parce qu'on sait que là, ce sont des trucs spécifiquement pour le Japon, des choses qui ont été dites au Japon, etc. Mais après, c'est l'Occident qui se hype, et c'est Sega États-Unis et Sega Europe qui doit payer les pots cassés et qui doit essayer de réparer les choses parce que les Occidentaux se sont imaginés monts et merveilles, alors qu'en fait, il n'y a rien. Et chez Sega en Occident, certaines personnes se disent mince quoi. Pourquoi ils font ça? C'est pas bon pour nous quoi. Ça nous facilite pas la tâche, ça nous aide pas. Et certains de manière un peu pas désabusée mais disent de toute façon on sait que ça va gueuler et comme ça gueule à chaque fois et c'est comme ça.
Ouais, mais tout le monde aime Sega donc on leur pardonne. Allez.
C'est ce que j'essayais de dire sur Twitter ou même aux gens de Sega que je connais, c'est que finalement, histoire de voir le verre à moitié plein, ça montre qu'il y a quand même encore un certain attachement à Sega. Parce que quand il y a du teasing ou qu'il y a des déclarations ou des trucs comme ça, tout de suite les gens se hype. Nous on le voit sur l'activité sur le site, ça commente, ça génère de l'intérêt, etc. Si tout le monde s'en foutait de Sega, il y aurait rien quoi, ça bougerait pas. Mais le problème, c'est qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Parce que si tu fais des coups comme ça trop souvent, au bout d'un moment, l'amour que les gens ont pour toi, il va se transformer en haine, et ensuite va te faire voir, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a clairement, ça a montré qu'il y avait encore clairement de l'intérêt pour Sega, mais ils ne l'ont pas forcément exploité comme ils auraient dû. Et après, pour être totalement droit, c'est pas totalement la faute de Sega parce que le teasing de l'annonce incroyable, etc. Sega ils se sont retrouvés face à ça, mais c'est le mec de Famitsu qui a fait monter la sauce tout seul.
Oui, alors le truc incroyable, donc on y vient maintenant, c'est d'un point de vue purement japonais, d'un point de vue culturel japonais, effectivement, ça peut être considéré comme quelque chose de révolutionnaire, mais tout de même. Messieurs, prenons une minute de silence pour nous rappeler que cette annonce, ça concerne les salles d'arcade et une technologie qui va juste permettre de pouvoir jouer à l'arcade chez soi hors des horaires d'ouverture.
C'est même pas sûr que ça soit ça en fait.
Ah.
Parce que j'ai mis à jour la news la semaine dernière quand l'article de Famitsu est sorti. Donc ça concerne bel et bien les salles d'arcade Sega. Uh-huh. Mais en fait, l'idée... En gros, ça serait de s'inspirer du système de fog computing. Donc, le fog computing, c'est un dérivé du cloud computing, dans lequel tu mets on va dire, une infrastructure intermédiaire entre l'utilisateur et le cloud pour améliorer la qualité du service. Donc là, il est bel et bien question de jeux vidéo à distance, mais c'est même pas forcément de jouer aux jeux d'arcade Sega. En fait, l'idée, ça serait de transformer les salles du réseau Sega au Japon, et d'autres peut-être s'ils veulent profiter de ce système, en sorte de data center intermédiaire entre les data centers de cloud et l'utilisateur. Parce que parfois, pour les utilisateurs, trop éloigné du data center, et ben ça nuit à la qualité de jeu, à la latence, etc. Donc, en gros, ça serait de jour, les bornes d'arcade serviraient de manière traditionnelle comme bornes d'arcade, mais ensuite, le hardware à l'intérieur de ces mêmes bornes, il serait relié au réseau et il servirait de data center d'intermédiaire entre le cloud et les joueurs. Mais donc, c'est clairement pour jouer, pour baisser la latence, etc. Mais on ne sait pas pour jouer à quoi. Donc, ça implique peut-être que Sega va lancer un service de cloud gaming à part, ou alors est-ce qu'ils vont utiliser leur salle pour d'autres services déjà existants? On ne sait pas trop. Et en plus de ça, ça implique que les bornes d'arcade actuelles ne sont pas devront être changées, parce que tu transformes pas une borne d'arcade en machine réseau comme ça, en fait. Ça serait pour la prochaine génération de cartes arcade qui commencera à arriver l'année prochaine, fin d'année prochaine de mémoire. Donc c'est encore très flou, mais c'est en termes de technologie et de hardware, c'est très intéressant, mais c'est surtout intéressant pour les gens qui s'intéressent à ce type d'informatique, etc. Pour les joueurs, l'annonce, elle est pas incroyable.
Oui, c'est pas le scoop de Wired avec la PS5.
Ah, pas, clairement pas, non.
Thomas.
Alors, faut pas penser qu'aux joueurs, parce que pour le coup, même si au Japon, la culture de l'arcade est quand même encore assez présente, malheureusement, la fréquentation des salles a tendance à systématiquement baisser, de par le jeu domestique, mais il y a aussi une hausse des taxes récemment qui a fait que les monnayeurs qu'on ne peut pas changer auraient dû passer à 110 yens. Enfin, il y a énormément de choses qui compliquent le travail des gérants de salles d'arcade. Et pour le coup, c'est peut-être aussi penser pour trouver de nouveaux débouchés vis-à-vis des Sega Center et puis peut-être d'autres franchises si elles venaient à se greffer sur ce système-là. Moi, je pense surtout à ça, en fait. Le fait que comme ta salle ne tourne pas une partie de la nuit, mais qu'elle coûte quand même énormément et qu'elle rapporte de moins en moins, si les salles d'arcade telles qu'on les connaît veulent espérer survivre encore quelques années, ben, il faudra peut-être diversifier un petit peu leur mission et ce qui permet de rapporter de l'argent. On sait que les UFO Catcher ont pris énormément de place déjà sur les bornes classiques. Peut-être que ce service de Fog Gaming va leur permettre de compenser un petit peu une perte de revenus qui ne cesse en fait de plomber leur business.
Ah bah c'est clairement ça. De toute façon, c'est écrit dans l'article de Famitsu. Tu as d'un côté les gains pour l'utilisateur en termes de latence, etc. Mais surtout, c'est un moyen pour Sega de rentabiliser ses salles d'arcade hors des horaires d'ouverture. Tu vois, ils ne cherchent même pas à le cacher. C'est clairement indiqué comme ça. Et pour le coup, c'est pas idiot. Parce que c'est vrai qu'ils ont toute cette infrastructure qui sert qu'une partie du temps et, comme tu le dis, qui sert de moins en moins dans certains cas. Et il faut dire que des salles d'arcade, ces gars, ils en ont vraiment beaucoup au Japon. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui concerne uniquement le Japon, parce que nous, on n'a pas d'équivalent, en fait. Il reste encore des petites salles d'arcade, mais elles appartiennent pas forcément toutes à un même groupe.
Un même groupe, ouais.
Tu vois, la tête dans les nuages, il y a même pas assez de salles pour que ça soit intéressant pour qui que ce soit de faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui était vraiment spécifique au Japon. Mais une fois encore, l'information est internationale et donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et les gens se sont imaginés monts et merveilles. Moi, pour rien vous cacher. Quand j'ai vu le truc de Famitsu, j'ai essayé de me renseigner pour savoir si les gens savaient, et des gens qui auraient dû savoir savaient, et apparemment une semaine avant, en interne chez Sega, personne n'avait entendu parler de quoi que ce soit. Donc à partir du moment où les gens en Occident ne savaient pas, ça voulait bien dire que c'était pas une annonce qui allait être tonitruante à l'échelle mondiale, parce que sinon, par exemple, la Mega Drive Mini, avant son annonce, tout le monde était au courant, parce que c'est un lancement mondial, c'est un truc que tu vas devoir vendre partout, et donc préparer le marketing, la communication autour de ça, ça allait concerner tout le monde. En cherchant un peu, on avait trouvé que ça pouvait être lié à la Game Gear, mais donc en gros, Tu vois, il y avait même une confusion à ce niveau-là, parce que certains se disaient, ah bah l'annonce c'est la Game Gear, alors qu'en fait c'était le Fog Gaming. Il y a eu une sorte de micmac autour de tout ça.
Eh bien justement, la dernière annonce de Sega la semaine dernière, c'est aussi celle qui est la plus drôle, ouais. J'ai envie de dire. En tout cas, on parlera du sondage qu'on a soumis à nos lecteurs tout à l'heure. C'est la Game Gear Micro donc, qui a été annoncée comme ça la semaine dernière et qui nous a tous un peu laissé pantois face à cet objet donc, qui sera disponible le 6 octobre prochain au Japon pour environ 40€, une version miniature de la tueuse de piles, la Game Gear donc, qui est sortie en 90, qui était la réponse de Sega à la Game Boy, et donc on se retrouve avec même pas une console mini, une console micro, elle porte bien son nom. Ça fait 43 mm de hauteur, 80 mm de largeur, 20 mm de profondeur, et l'écran, attention, accrochez-vous bien, 1,15 pouces, c'est je pense impossible de faire plus petit, enfin en tout cas en un minimum lisible, c'est impossible de faire plus petit. Et on a donc découvert que la machine en elle-même coûterait environ 40€ au pays du soleil levant et qu'il y aurait 4 coloris, chaque version embarquant 4 jeux différents. La version noire aurait Sonic, Puyo Puyo 2, Outrun, Royal Stone, la version bleue Sonic & Tails, Gunter Hero, Sylvan Tails, Baku Baku Animal, la jaune que du Shining Force et Nazo Puyo, et la rouge Megami Tensei Gaiden en double exemplaire, Gigi Shinobi et Columns. Donc c'est un petit peu bof.
Bah c'est clairement pas ce que les gens espéraient, hein, ça on l'a vu. Moi quand j'ai entendu parler de la Game Gear, qu'il était question d'un truc autour de la Game Gear, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui va être compatible avec les cartouches originales ? Est-ce que ça s'appelle en fait Game Gear, mais ça va être une nouvelle console portable qui permettra de jouer à des jeux Sega de plein de générations différentes ? Ben non, en fait, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que ça allait être la Game Gear micro avec 4 jeux embarqués dedans. Mais quand tu lis les déclarations des gens de chez Sega au sujet de cette machine, en fait, tu as limite l'impression que c'est pas pour que les gens jouent dessus. C'est clairement un gadget pour voir jusqu'à quel point en termes de taille ils pouvaient réduire le truc, parce qu'en plus ils voulaient qu'elle soit à l'échelle par rapport à la Mega Drive Mini. Donc, c'est-à-dire si tu mettais une vraie Mega Drive à côté d'une vraie Game Gear et que bah, l'échelle serait respectée par rapport à une Mega Drive Mini et la Game Gear Micro. Parce que en l'état, j'imagine personne jouer sur cette petite machine. Alors, ils ont fait des boots. L'échelle des boutons n'est pas respectée, justement, pour que ça reste, on va dire, maniable. Mais enfin, moi, je sais que j'ai du mal avec le Joy-Con. À l'horizontale, ils sont trop petits pour moi, pour que je joue confortablement. Alors, ce n'est pas pour aller jouer avec une Game Gear micro, grande comme ça. Enfin, et là encore, l'Occident n'était pas au courant. Donc, ce qui me laisse penser que pour l'instant en tout cas, elle n'est pas prévue.
C'est vraiment ciblé marché japonais, hein, ce genre de choses, un espèce de porte-clé, maximum taille porte-clé. Hein, vous voyez, j'ai une Game Boy Game & Watch.
Mais tu mettrais 40 balles dans un taille. Porte-clé, toi ?
Voilà, à peu près cette taille-là. C'est jouable.
C'est énorme,
oui.
Ça.
Oui, c'est vrai. Et là-bas, c'est le genre de choses que tu as envie de collectionner. Après, de là à mettre 40€ pour avoir 4 jeux sur une console qui n'est même pas la plus populaire de Sega, qui n'a pas produit forcément les meilleurs jeux. Alors moi, il y a peut-être celle de Shining Force qui pourrait à la limite me faire de l'œil.
Ouais.
Et encore. Et pareil.
Le texte va être super lisible.
Pardon, Thomas, Yann ?
Le texte va être super lisible sur l'écran.
Bah, ça va être impossible.
Ah, les kanji sur l'écran d'un pouce, ouais, ça va être sympatoche.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils rééditent le Big Window, qui était déjà l'accessoire qui était pour la Game Gear d'origine, pour la Game Gear Micro. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va vraiment agrandir beaucoup.
Ah, mais tu vois, là, c'est la loupe. Mais je crois que, si j'ai bien compris, tu pourras avoir la loupe que si tu commandes le pack spécial qui regroupe les quatre modèles. Autres. Et qui est genre, ce pack, il est plus cher que si tu achètes les 4 consoles séparément de mémoire.
Ah ouais, complètement, ça fait Ça fait environ 246 € pour le tout, sachant que ça devrait être 40 ou 60 € de moins si tu achètes les 4 consoles. Donc forcément, je dis que la loupe, elle coûte cher quand même.
La loupe coûte cher. Et tu dis que ce sont les 60 ans de Sega. Ils te font un site en grande pompe, ils te dévoilent une nouvelle mascotte avec campagne marketing, etc. Et genre, le produit star qui te balance pour ça, c'est la Game Gear Micro, quoi. Je comprends pas. Alors,
j'ai envie de me demander, moi, s'ils sont pas en avance. Parce que, est-ce que quelque part, c'est pas le stade ultime du jeu vidéo collector? C'est-à-dire que c'est tellement inutile, c'est tellement inutilisable que, en fait, quand tu regardes les packs collector qui commencent à taper dans les 200-300 €, finalement, est-ce que ces gars n'ont pas 10 ans d'avance sur ce qu'on va nous proposer à l'avenir?
Mais complètement, parce qu'en plus, il y a un autre pack dont on n'a pas parlé qui lui propose 5 consoles. Sauf que la cinquième, la couleur smoke, en fait, elle est juste décorative. Tu peux rien mettre dedans, il n'y a pas de jeu, il n'y a que dalle. Et voilà. Ça coûte encore plus cher. Voilà. Donc, effectivement, ils sont peut-être en avance sur le jeu du collector.
C'est l'étape ultime de la collectionnite et du consumérisme sans but derrière, quoi.
Ils ont beaucoup de produits dérivés, Sega, au Japon. Enfin, toutes les marques, hein, pour le coup, les Japonais, ils sont toujours au taquet sur le merchandising. Et là, ça se réaffirme. Mais bon, c'est vrai que pour cette occasion, on aurait pu être en droit d'espérer autre chose. Apparemment, il y avait pas mal de manifestations qui étaient prévues à différents moments. Même moi,
contre la Game Gear Micro, tu veux dire? Des gens dans les rues et tout.
Même il y a plusieurs mois, ça fait plusieurs mois avant le Covid, tout ça, j'avais entendu parler d'événements qui auraient eu lieu pour les 60 ans de Sega, y compris chez nous. Mais tous ces plans-là, évidemment, sont tombés à l'eau. Et dans l'interview des deux responsables de la Game Gear Micro dans Famitsu, ils en parlent, ça aussi. Ils expliquent qu'ils avaient plein d'autres trucs prévus, mais que ça a été annulé. Alors après, c'est sûr que si t'as plein de trucs prévus qui sont cool et que t'as la Game Gear Micro au milieu, ça passe dans un flux et dans un flow de trucs sympas. Donc ça laisse moins cette drôle d'impression. Mais là, en l'occurrence, il n'y a que ça. Donc, les spotlights sont braqués dessus. Et le public n'est clairement pas convaincu.
C'est vrai, le public n'est pas convaincu. D'ailleurs, avant de vous donner le résultat du sondage qu'on a soumis à nos lecteurs, je vais quand même vous demander chacun si vous achèteriez ne serait-ce qu'une version de la Game Gear Micro. On va commencer par toi, Thierryan. Est-ce que tu en achèterais une, toi? Est-ce que tu te sens vraiment impliqué par ce genre de choses?
Alors, je l'ai beaucoup aimé à l'époque. J'avoue que la perspective de redécouvrir ces graphismes sur un tout petit écran comme ça, ça me permettra peut-être de les apprécier à leur juste valeur. En plus, les coloris sont assez collector en soi. Hein. C'est vrai que c'était pas évident d'avoir ces coloris-là pour ceux qui
surtout chez nous.
Voilà. Alors, oui, c'est clair, ils étaient tous quasi exclusifs au Japon. Donc, je suis mitigé parce qu'en fait, le message est clair, c'est vraiment l'objet pour collector absolu qui n'a presque pas d'autre vocation. Moi, en fait, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit je les prends toutes, soit j'en prends aucune, quoi.
Tu irais là, tu serais prêt à aller sur Amazon Japon et acheter le pack avec toutes les consoles?
Bah, vous imaginez pas tout ce que j'ai pu acheter. Hein.
ok, d'accord. Alors, on ne va pas en dire plus. Je crois que j'ai pas envie de savoir.
Ah oui. Je crois que je peux quand même lâcher. Je veux dire, moi, j'adore la Game Boy Micro. Je peux le dire là, voilà,
ouvert. Ah mais oui.
Ouais. C'est normal. La Game Boy Micro est une super console.
Voilà. Et c'est vrai que certains jeux n'étaient pas évidents au niveau de lisibilité, mais quand même. Mais moi, j'adore le format, quoi. Pour moi, c'était peut-être la limite extrême hein, de ce qui peut être le plus portable en étant encore utilisable. Donc ouais, moi, je ne jouerai pas dessus, très sincèrement. Voilà. Soyez honnête.
On a oublié de préciser que c'était M2, c'est M2 hein, qui a fait les portages, qui a conçu le truc. Ceux qui ont fait la Mega Drive Mini et la PC Engine Mini aussi, hein, donc en termes d'émulation, tout ça, ça devrait être nickel. Donc il y a quand même du boulot, tu vois. Ils ont quand même fait une interface, ils ont quand même fait des trucs, ils ont travaillé les portages, mais pour ça. Après, moi, je me moque, hein, mais c'est pas impossible que j'en prenne une.
Ok.
Une voire deux. J'achèterai pas les cartes. Voilà. Je sais pas, hein, c'est pas garanti, mais c'est juste parce que c'est pareil. Moi, je suis collectionneur, j'ai plein de trucs et.
T'as pas la mini Saturne, y avait une mini console là, je crois, dans laquelle on pouvait mettre des cartouches, qui avait été montrée au Japon il y a pas longtemps.
C'était non,
pas
une mini Saturne. Récupéré des cartouches de Mega Drive Mini.
Ah voilà, c'est ça. Oui.
C'était les cartouches. À l'E3, en fait, à l'E3, quand tu allais tester la Mega Drive Mini, il te filait une petite cartouche Mega Drive que tu pouvais clipser dans la console, parce que dans la Mega Drive Mini, ils avaient fait une fente cartouche. Qui ne sert à rien, c'était purement décoratif. Et si tu avais les petites cartouches qui vont avec, tu pouvais les mettre dedans. Mais ça ne servait à rien, c'était juste du plastique. Quoi.
Bon,
après, bah là, t'imagines s'ils faisaient les cartouches Game Gear Micro. la taille du truc, quoi. Comment, mais je crois que j'aurais des trop gros doigts pour l'insérer dedans. Quoi.
Bah, même une micro SD serait encore un petit peu trop grosse par rapport au format de cette machine. Thomas, toi qui es un grand consommateur, toi qui es...
Bah, je vais te dire que dans une société qui va bien, ce genre de truc n'existerait même pas. Voilà, c'est ma réponse.
Ok, très bien. Et la réponse de nos lecteurs, donc...
Non, et toi, mon cher Plume, ne te délite
moi,
pas.
C'est...
qui ne prend jamais parti.
Il n'achète rien, Plume.
Moi, je collectionne que dalle, donc déjà, c'est réglé. Et honnêtement, non. Voilà, juste non. Et donc, nos lecteurs, eux, quand on leur pose la question... Disons que c'est assez net, 92% répondent qu'ils n'en veulent vraiment pas. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. La Game Gear Micro ne passera pas par Gameblog, en tout cas pour le moment. On en a fini avec Sega et ses annonces incroyables. On va pouvoir passer maintenant au deuxième thème de la semaine qui concerne trois tests. Donc trois tests que Yann a effectués ces derniers jours pour Gameblog. On va commencer avec... celui qui s'est immiscé dans le classement des meilleures ventes de jeux physiques en France durant la semaine 22, c'est Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Bon, c'est un portage, Yann, de Xenoblade Chronicles, qui est paru sur Wii, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce qu'il a de plus que sur Wii et qu'est-ce qui fait qu'on... peut se jeter dessus les yeux fermés, sachant que tu lui as mis 9 et indispensable, donc que c'est toujours un grand RPG, j'imagine.
Ah, y a énormément de raisons. Voilà, les questions, elles sont différentes selon qu'on y a déjà joué sur Wii ou 3DS, puisqu'il avait été ensuite porté à nouveau sur 3DS, version 3D, donc... là, on était clairement très en deçà de la version Wii. Ce qui m'a frappé en fait, c'était de le redécouvrir graphiquement. Je l'avais jamais vraiment oublié, mais j'ai retrouvé un peu les screens qui avaient été diffusés à l'époque pour communiquer. Hein, je veux dire, qui n'étaient pas in-game, hein, qui étaient vraiment des screens de développement. J'ai retrouvé la qualité de l'époque qu'on pouvait aussi retrouver de manière moins légale, on va dire, indirectement, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus fin. Vraiment, la première impression, c'est de redécouvrir tel qu'il devait être, finalement, au départ. Mmh. Et puis, comme j'avais dit, il y avait vraiment beaucoup de petits détails qui ont été retouchés, qui n'apparaissent pas au premier regard. C'est pour ça qu'il y avait eu ces screens comparatifs, parce que c'est vraiment en faisant les comparaisons lieu par lieu... que je me suis aperçu que beaucoup de choses avaient été améliorées, plein de petits détails supplémentaires. Donc ça, voilà, au niveau purement visuel, hein, il y a gros changement aussi au niveau des personnages, hein, le character design a été vraiment retouché. Alors après, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Mais donc ça c'est vraiment le passage de l'un à l'autre qui est marqué de ce côté-là. Il y a aussi la dimension sonore, en plus avec le choix d'avoir les musiques originales ou pas, ou remasterisées. Donc là, j'aime bien ce choix, cette notion de choix d'ailleurs, qu'il n'y a pas sur le character design. Très 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 agréable à redécouvrir comme ça, parce que quand on les a beaucoup écoutés, ça semble nouveau. Voilà. Maintenant, au niveau du gameplay... là c'était peut-être la configuration la plus intéressante. C'est vrai qu'il y avait déjà à l'époque, on pouvait jouer avec la manette pro, la manette arcade. Mais c'est vrai que sur cette configuration-là, on prend vraiment un plaisir. Il est quand même assez, il est très orienté action hein, quand même comme RPG. Donc quand on dégaine la mode anneau et qu'on oxyde toute l'adversité d'un seul coup, c'est, je pense que j'ai jamais ressenti ça aussi fort qu'avec cette version-là.
D'accord, donc c'est définitivement toujours un grand RPG 10 ans après et quelque chose de tout à fait indispensable pour qui a envie de redécouvrir ou de découvrir d'ailleurs l'œuvre de Tetsuya Takahashi, qui est quand même aussi le papa de Xenogears, dont on a reparlé il n'y a pas très longtemps parce que il aurait pu y avoir un 2, mais en fait il n'y en a pas eu. Et Dieu sait que c'est un jeu qui mériterait lui aussi d'être remasterisé un jour ou l'autre.
Donc, mais peut-être que je voulais ajouter, c'est vrai qu'il y a la deuxième partie finalement, parce qu'il y a ce chapitre additionnel, et là c'est quelque chose où là je suis un petit peu plus mitigé. C'est pour ça que ma question de départ c'était, est-ce que c'était la touche finale ou la touche de trop, parce que à titre personnel, je ne juge pas forcément ça nécessaire. J'ai beaucoup apprécié de découvrir une facette supplémentaire de cet univers. C'est bien fait, c'est pas mal écrit. Hein. Là, ce n'est pas Tetsuya Takahashi qui l'a écrit. C'est pas mal mené. Et surtout, il y a beaucoup de petits éléments qui vont être intéressants pour ceux qui ont fait Xenoblade d'avance. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs absolument, et je l'avais dit dans le test, mais je le répète, absolument avoir fait Xenoblade avant, parce que se lancer dans le chapitre additionnel directement, ça en diminue l'intérêt de manière dramatique. Donc, il vaut la peine. Maintenant, il ferme un petit peu la fin, c'est-à-dire qu'il y a une continuité qui tout était ouvert, finalement, la fin de Xenoblade. Hein, je veux rien gâcher, mais on pouvait tout imaginer, et là, on nous donne un petit peu plus d'éléments sur ce qui peut se passer après. Honnêtement, je sais toujours pas si c'était vraiment nécessaire ou pas. J'étais content de le faire, mais j'aurais pu vivre sans.
Très bien. Deuxième test que tu as pu faire. Donc, Thomas, tu voulais dire quelque chose.
J'ai juste une question, du coup, parce que pour les gens qui se demanderaient si ça vaut le coup de le prendre, surtout en fait pour ce chapitre bonus qui de mémoire dure une dizaine d'heures, je crois, un truc comme ça, mais qui aurait plutôt en tête de vraiment vouloir découvrir ce qui s'est passé après. Du coup, pour toi, il n'est pas forcément aussi indispensable que ça si on est dans cette optique-là, en fait.
Effectivement, oui. Tout dépend si c'est une personne qui a déjà fait Xenoblade avant. C'est vraiment cette question. C'est-à-dire, je pense que qui ce soit qui apprécie Xenoblade appréciera de le refaire sous cette forme-là. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, voilà, il y a ce prolongement qui vaut la peine, mais qui, si c'est uniquement pour ça, on va dire, c'est plus mitigé, vraiment.
D'accord.
Très bien. Le deuxième jeu que tu as pu tester, c'est Shantae and the Seven Sirens. Shantae, donc, c'est une série de WayForward qui commence à avoir pas mal d'âge maintenant, pas mal d'épisodes aussi au compteur. Shantae, qui est une espèce de petit génie danseuse orientale assez rigolote avec sa natte juste derrière. Jeu très cartoon. Là, ce nouvel épisode, on va dire que il était attendu surtout parce que les précédents ont été un peu décevants, si je puis me permettre.
Le précédent.
Qui était Algeni Hero, c'est ça?
Parce que Algeni Hero, il était un petit peu en deçà. Surtout qu'après Pirate's Curse, qui était le troisième, ça reste d'ailleurs le meilleur. Hein,
merci.
Mais à mon avis, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il ne soit pas indispensable à mes yeux, contrairement à Pirate's Curse, qui lui le méritait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un petit coup de mou sur le précédent épisode.
Et alors celui-ci, du coup, qu'est-ce que ça donne?
Et bien, ce qui est vraiment super intéressant, c'est la map, c'est la carte. C'est vrai que là, ils sont partis vraiment dans ce qu'ils n'avaient jamais osé faire à ce point-là, puisque chaque épisode un petit peu lorgné sur le modèle Metroid, Castlevania, et ainsi de suite. Là, ils sont allés vraiment au bout. Ils ont vraiment fait une grande map qui s'étale toute en largeur, en hauteur, et en plus avec des petits donjons aux extrémités. Et tout ça, c'est intercommunicant, ça se développe au fil de l'aventure de manière très intelligente, et puis très libre aussi, puisque du coup, vraiment, on fait pas mal d'allers-retours dans tous les sens, et c'est relativement agréable. Si ce n'est des petits temps de chargement, quelquefois, quand on passe d'une zone à l'autre, qui sont un tout petit peu longs, puisqu'il n'y en a pas le reste du temps. Mais bon, voilà, à part ça, c'est super agréable déjà. C'est bien conçu en plus.
D'accord, et donc, les particularités de cet épisode par rapport au précédent, quelles sont-elles ?
Je dirais qu'ils ont un petit peu, ils ont écouté un peu tout, parce qu'il y a beaucoup de fans hein, de Chantelle. Mmh. C'est une série qui est très populaire et qui d'ailleurs c'est bien mérité, parce qu'il y a énormément de charme. En termes de déjà la structure du monde, hein, vraiment c'est quelque chose ouais. Je pense, qui était attendu. Ensuite, il y a peut-être sur le dernier épisode, on explorait en fait zone par zone. Tout était un peu éclaté comme ça. Et je crois aussi qu'il y avait la manière dont ça avait été dit. Alors, il y a une particularité aussi sur ce Shantae, c'est qu'il est sorti en premier à moitié sur l'Apple Arcade. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier comme sortir en exclusivité sur l'Apple Arcade et à moitié. Donc là, moi, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. Et finalement, ils ont fait un jeu qui est complet. Oui, il y a aussi peut-être une différence, c'est que là, au niveau DLC, c'était déjà prévu d'emblée sur le prédécesseur qui était vraiment construit, qui d'ailleurs était parti d'une campagne Kickstarter. Donc quelque part, partant de là, il y avait déjà cette idée de prolonger la vie du jeu. Il est sorti en 2016, le précédent, et je crois qu'il y a eu des mises à jour jusqu'en 2018. Donc c'est vrai que il y a eu des ajouts intéressants, mais un peu quel demi intéressant. Là on a vraiment un jeu qui est complet d'emblée avec ses cartes. Oui aussi ça c'est très très important. J'ai failli oublier, mais les cartes de monstres qui jouent sur deux aspects à la fois, c'est-à-dire d'une part la collectionnique parce que c'est toujours sympa de casser du monstre pour récupérer des cartes, et puis en fait les pouvoirs qu'on récupère en équipant ces cartes.
Très Castlevania, tout ça.
Ah oui, très, très Castlevania. Ouais.
D'accord. Eh bien, très bien. Thomas ?
Alors, j'ai quelques petites questions, parce que moi, je suis un fan inconditionnel de cette série aussi. Tu parles de la structure qui est du coup un petit peu plus ouverte, un peu plus libre, et surtout une taille de map un petit peu plus grande. Est-ce qu'on n'a pas des fois des problèmes de pathfinding ? Parce que, même encore dans Life Journey Hero, on a des moments où c'est des jeux à l'ancienne, où il faut que tu parles à tel perso à tel endroit pour faire avancer l'intrigue, et on a des moments comme ça où la mécanique s'enraye un petit peu. Est-ce que c'est encore le cas, et est-ce que c'est pas gênant du coup avec une carte qui soit plus ouverte?
Ah oui, c'est vrai que avant il y avait aussi ce problème avec le fait que l'univers il était développé sur plusieurs plans, hein. Je pense notamment aux deux premiers, où là on savait plus trop où aller, parce qu'on ne savait plus s'il fallait aller à l'arrière-plan, à l'avant-plan, au milieu. Là, ce qui est un petit peu perturbant, c'est que, et ça je l'ai vraiment regretté, c'est pour ça que je l'ai mis dans le test, c'est qu'on ne peut pas ajouter des petites annotations sur la carte pour dire, tiens là, je suis bloqué par tel élément, tiens là, il faudrait que je puisse nager, là, il faudrait que je puisse casser le mur. Parce que c'est vrai que c'est pas désagréable non plus, hein, mais on passe quand même pas mal de temps à tourner, à revenir en arrière, mais c'est surtout pour ces problématiques de pouvoirs qui sont manquants. Là, c'est beaucoup moins pour des problèmes de personnages, justement, à avoir rencontré ou pas.
Et je suis aussi posé des questions, parce que j'ai l'impression que tu n'en as pas beaucoup parlé dans le test. Qu'en est-il des musiques? Parce que ça fait partie des charmes de la série. Les thèmes de Jake Kaufman sont absolument fantastiques. Qu'est-ce qu'il en est dans ce cinquième épisode?
On sent que c'est une œuvre commune parce que y a une grande diversité de styles presque. On sent qu'ils ont beaucoup essayé d'imiter son style à lui aussi, donc avec des chiptunes qui sont bien péchus là, qui rentrent bien dans la tête. Donc ça marche, il y en a qui rentrent dans la tête. Maintenant ils sont beaucoup plus courts, les thèmes sont plus courts, ils sont moins développés et en plus ils se répètent pas mal.
D'accord.
On trouve souvent les mêmes dans les donjons et du coup, ils tapent presque un petit peu sur le système. Donc, c'est dommage parce que aussi, ça faisait partie de son charme, effectivement, quelque chose de... Et là, voilà, j'avoue, ça ne m'a pas empêché de commander l'édition collector pour avoir l'OST. Hein. Mais bon, c'était, le cœur y était un peu moins.
Tu le placerais où, du coup, dans ton top de la série?
Devant Evgeny Rowe, ça c'est sûr. Ouais, je dirais... ouais, voilà, le premier reste Pilot's Curse, sans hésiter.
Évidemment.
Et puis, c'est difficile. Moi, je pense en numéro 2. Très sincèrement, okay. Je pense en numéro 2, juste derrière. Voilà.
Donc quand même, valeur sûre pour les fans de la série. Oui, on peut y aller. Malgré tout, on va passer un très très bon moment.
Ah, ça c'est sûr.
Bon, bah très bien.
Très facile. Merci. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais très facile sur le premier run avant le New Game Plus, c'est vraiment facile.
Bon, très donc bien. On va y jouer un peu plus longtemps alors du coup.
J'espère.
Le troisième jeu sur lequel on va s'attarder sur Switch, le test n'est pas encore paru mais il ne devrait pas tarder, c'est Wonderful 101 Remastered. Parce que oui, il est sorti pendant le confinement, ce nouveau run des 100 héros que l'on peut accompagner dans leur quête contre des extraterrestres. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle dans Wonderful 101. Toujours est-il que le jeu supervisé par Hideki Kamiya est ressorti sur toutes les plateformes. Une remasterisation qui est bien faite ou qui, mine de rien, est un peu paresseuse de la part de Platinum, Yann ?
Il y a deux facettes à cette remasterisation. Il y a vraiment la facette technique et puis il y a la facette ergonomique. La facette technique, elle est, je dirais, presque sans surprise, c'est-à-dire que vraiment on retrouve le jeu tel qu'il était à l'époque sur Wii U. Alors bien sûr, il n'y a pas, au niveau de la résolution, ça change un petit peu, puisque par exemple sur Switch, l'écran de la Switch a une meilleure résolution. Donc vraiment comparé côte à côte, on voit qu'on a juste un gain au niveau de la résolution. Il y a de l'aliasing qui subsiste, qui est le même. Il y a aussi des petits ralentissements, hein. Je veux dire, ils ne sont pas gravissimes, mais je veux dire qu'on peut constater, en particulier quand on joue en mode de quai. Donc là-dessus, on va dire que c'est simple, c'est honnête, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à la version Wii U. En revanche, il y a la partie ergonomie. Et là, c'est pour ça que j'étais très intrigué, parce que le fait d'avoir un jeu qui a été clairement développé comme ça pour une console, avec donc deux écrans, un écran déporté qui affichait donc des choses différentes avec la Wii U, là ils ont dû s'adapter selon les situations. Alors il y a des moments où ça pose pas vraiment de problème, mais alors on va dire il y a des passages, je sais, pour ceux qui ont pu le faire, hein, ça rappelle des souvenirs, où en fait il y a deux points de vue simultanés qui étaient affichés. Donc là, pour ça, ce qu'ils ont choisi, c'était d'avoir un deuxième petit écran qui s'affichait dans l'écran. Alors c'est amusant, parce que quand on y joue sur Switch, cet écran il est repositionnable, on peut le déplacer, on peut le mettre où on veut, on peut l'agrandir, le rétrécir, donc ça c'est bien pratique. On peut même le rendre le plus transparent possible, sauf que quand on joue sur Switch à un jeu d'action, c'est quand même pas très pratique d'avoir un deuxième écran qui vient s'incruster comme ça sur le premier. Et puis ça pose aussi des petits problèmes quand on joue sur le dock, parce que cet écran qu'on a mis par exemple dans un petit coin, quand on a envie de le redéplacer, là tout de suite, j'ai pas encore retrouvé comment faire autrement qu'en reprenant la console et en le déplaçant à la main. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé. Et puis vraiment c'est une question de lisibilité, parce que c'est vrai que là, les deux là, côte à côte, ça gêne franchement la lisibilité. Et quand on sait le niveau de timing qu'il faut atteindre pour les combos par exemple, voilà, c'est pas idéal. En même temps, il n'est pas ultra nécessaire, hein, ce second écran, mais c'est vrai que sur les petites sections comme ça, bon, c'est pas idéal, c'est vraiment pas idéal, c'est pas très confortable.
Ouais, pour avoir un trophée platine, du coup, ça bousille un petit peu tous les espoirs.
Sur 100% de la mission, ouais, c'est ça.
Thomas, tu voulais encore
interrompre. Ouais, oui, je suis désolé, je vous saoule avec mes questions, mais j'en ai plein. Pendant qu'on parle d'ergonomie, justement, c'était un jeu où tu avais des inputs qui étaient à faire sur l'écran tactile, justement, pour déclencher certains trucs. Comment ils ont retranscrit ça, en fait, sur des consoles très classiques avec des manettes comme on a l'habitude de jouer, quoi.
Alors j'ai testé sur Switch. Je sais que donc il y a le choix entre chaque, donc l'uniformisation, donc vraiment le le pouvoir principal hein, qui permet de dessiner en fait l'arme qu'on va utiliser, hein, un point avec un cercle, l'épée avec un trait. C'est quelque chose qui peut être fait soit sur l'écran tactile, soit sur le stick analogique. Donc ça, c'est pas en soi une nouveauté. Par contre, là, le fait de l'avoir sur le même écran, c'est pas non plus toujours pratique. On hésite des fois à utiliser l'un ou l'autre, sachant que honnêtement, au stick, voilà, on réussit pas toujours ce qu'on veut, quoi. Hein. C'est pas précis comme on s'y attendrait, comme on le souhaiterait. Sur PS4, il y a le pavé tactile aussi qui est utilisé. Sur PC, a priori, c'est la souris. Donc, il faudra que je vérifie. Mais c'est vrai que bon, là, la souris, ça promet, quoi. J'ose même pas imaginer ce que ça doit donner.
Oui, parce que du coup, tu t'empêches de l'utiliser par moment en sachant que ça va apporter une surcouche finalement à ta séquence de gameplay et tu t'en prives à cause de ça.
Bah, on met les doigts sur l'écran, donc on voit plus trop ce qu'on fait à ce moment-là. Non, c'est vrai que c'est voilà encore un problème d'ergonomie, quoi. Ça empêche pas d'y jouer, mais c'est vrai quand on est vraiment en quête de performance. C'est gênant. Alors on lui pardonne tellement de choses à ce jeu-là. C'est vrai que c'est un jeu comme on l'adore, et ben on lui pardonne énormément de choses, mais il y a plein de choses problématiques comme simplement de design au départ, c'est-à-dire c'est cette vue isométrique, cette caméra qui est jamais trop bien placée, qui est toujours trop près, trop loin. Ça c'est des choses qu'on pardonne, et en même temps on peste constamment contre ça. Même idem pour les mécaniques de jeu qui sont ils ont fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour rendre les choses un peu plus accessibles. Ça m'a amusé parce qu'il y a certains objets qui sont essentiels, c'est ceux pour l'esquive et pour la défense, ils sont quasiment donnés, ils sont offerts là quand on va là pour la première fois dans la boutique, de manière à ce que les joueurs comprennent que oui, il faut les acheter, parce qu'on pouvait passer à côté hein, sincèrement sur la version Wii U. Et donc ça c'est des idées sympas pour aider, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ce côté jeu de niche, ce côté jeu vraiment pour fans, ça va pas évoluer avec cette version parce qu'il reste en termes d'accessibilité. Honnêtement, c'est un jeu pour le maîtriser, il faut déjà le faire une première fois pour simplement comprendre, et une deuxième fois pour commencer à gérer tout et à prendre du plaisir encore plus vraiment.
Pour le coup, s'ils ont fait l'entourloupe du Kickstarter avec ce jeu, ça prouve bien qu'eux-mêmes savaient que le jeu ne quitterait pas sa niche.
Je pense, ouais.
Bah, c'est un beat'em all très particulier déjà au départ, donc tu t'adresses pas à un public énorme. Mais moi je me suis posé beaucoup de questions sur comment ils allaient réussir à transposer un gameplay aussi particulier sur des consoles assez classiques. Mais du coup, t'as quand même pris du plaisir à t'entendre, à le refaire, et ça vaut le coup de le redécouvrir avec cette version.
Mmh. Ah, c'est un jeu, quand il faut bien savoir dans quoi on s'embarque. C'est vraiment, ça s'adresse à un public très particulier. Il faut aimer les tokusatsu déjà. C'est très japonisant, je veux dire, comme humour. Il y a des choses d'ailleurs hein, qui sont un petit peu bizarres. Pourtant, il est pas vieux, hein, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour un petit peu, sur la jante féminine qui déjà passe un petit peu moins bien aujourd'hui. Mais il faut savoir à quoi on s'attend. C'est vraiment un jeu d'action. Ça fait vraiment typiquement les jeux qu'on qualifie souvent un peu de maudits, quoi, qui vont toucher très très peu de personnes, mais ces gens-là vont adorer et c'est tout à fait normal. Moi personnellement j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il touche très peu de personnes finalement en termes d'humour, de style et même de concept, quoi.
Très bien, Wonderful 101 donc, qui est disponible maintenant sur d'autres plateformes que la Wii U, sur laquelle, visiblement, il n'avait pas forcément bien performé. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de tes trois tests Switch. Yann, merci. On va passer maintenant à la dernière ligne droite de ce podcast avec l'anniversaire. Et l'anniversaire, on parlait d'Hideki Kamiya il y a quelques instants. C'est encore une fois un côté Capcom, même si Kamiya n'y est plus, que ça se passe. C'était en 2005. Le 9 juin, pour être exact, que sortait un jeu très 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 spécial de Suda Goichi, évidemment, à savoir Suda 51, donc pour nous, puisqu'on aime bien parler en français, un jeu que je crois beaucoup de monde n'a pas bien compris, mais toi Thomas, tu l'aimes.
Ah bah oui, et si Julo était là, je pense qu'il aurait aussi crié tout son amour pour Killer 7, puisque c'est évidemment de lui dont il s'agit. On parlait de jeu de niche juste avant avec The Wonderful 101, là pour le coup, Killer 7, on est sans doute encore un peu plus loin dans le trou, le pétrole est plus très loin avec Killer 7,
parce que c'est quand même... Ça c'est la niche qui est très loin dans le jardin.
Mais ouais, peu de gens connaissent son existence, effectivement...
M'enterrer pour éviter que les gens aient trop peur un petit peu.
Voilà, c'est le jeu qui va être redécouvert par des générations plus tard quand ils vont creuser un trou pour y installer autre chose et qui fête donc effectivement ses 15 ans au Japon. Chez nous, il sortait le 15 juillet. Et c'était un projet donc commun de Suda Goichi et de Shinji Mikami aussi qui a participé à l'écriture d'un scénario assez alambiqué, puisque de toute façon, quand Goichi met son nez dans quelque chose, généralement, c'est pas un truc qui se veut très accessible ou très compréhensible, en tout cas. Et pour le coup, c'était évidemment le cas avec Killer 7, qui a sans doute été le jeu qui l'a un peu quand même propulsé et fait sortir de sa niche pour n'en faire qu'un auteur de niche tout court, un level supérieur, finalement, quand on regarde avec un peu de recul. Donc, si vous vous souvenez, Johnny One vous en parlera avec beaucoup de nostalgie, c'était l'un des projets du fameux Capcom 5, ce projet de 5 jeux qui devaient être exclusifs à la GameCube, dont faisait partie PN03, Resident Evil 4 et quelques autres projets qui sont, malgré leur nom, morts, finalement, avec Beautiful Joe aussi, qui était évidemment un beat'em all fantastique. Et bah là, pour le coup, c'était un jeu particulier, d'une part pour son aspect visuel, puisque si vous n'avez, je ne sais pas comment, jamais vu à quoi ressemblait Killer 7, vous voyez bien que, en termes de direction artistique, c'est quand même assez saillant, c'est très fort, il y a beaucoup de propositions assez tranchées, et c'est ce qui fait forcément que c'est un jeu qui n'a pas plu à tout le monde, c'est qu'il était quand même très 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 particulier dans son propos, dans ses mécaniques, puisque au départ, on incarne un espèce de tueur à gages, Armand Smith, qui possède 7 personnalités différentes et entre lesquelles on va switcher pour parcourir des niveaux très particuliers, puisque on était, malgré l'aspect un peu TPS, on était plus sur un rail shooter finalement, puisque l'une des particularités de Killer 7, en plus d'avoir une plastique assez singulière, c'était qu'on se déplaçait sur un axe fixe avec un seul bouton. On appuyait sur A pour avancer, B pour changer de direction, donc revenir en arrière. Il n'y avait pas de déplacement libre au stick. Et à partir du moment où on entendait des ennemis dans son environnement, il fallait qu'on passe en vue FPS pour les localiser et pour ensuite essayer de trouver le point faible qui allait les faire se désintégrer dans un mouvement quand même assez stylé graphiquement. Et on avait une espèce d'ambiance assez oppressante de par le fait que ces ennemis étaient invisibles, de par un scénario complètement alambiqué qui mélange énormément de trucs, qui était une vision alternative du 21e siècle dans lequel il n'y avait pas une pandémie, mais plus une espèce de guerre entre les États-Unis, le Japon. Le groupe des Smiths qu'on incarnait était mandaté par le gouvernement pour éliminer des cibles. Il y avait quelque chose d'un petit peu politique, mais de toujours très loufoque, parce que vous avez ça d'un côté, de l'autre, vous avez des scènes complètement ubuesques où on passait d'un environnement à l'autre juste en ouvrant une porte, donc un truc un peu sous-acide, qui n'a pas forcément de sens, qui n'a pas forcément de logique. Moi, personnellement, je vous avoue que je n'ai pas forcément compris s'il y avait un propos dans Killer 7, c'était plus une expérience artistique qu'autre chose, avec des contraintes de gameplay très particulières. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que quand on se replonge dans le développement et les interviews de l'époque, en fait, ils ont d'abord pensé l'habillage, la partie graphique, la partie artistique, et sur le tard du développement, ils se sont demandé comment est-ce qu'on allait jouer à ce machin-là, en fait. Donc, on a une réflexion qui est presque à l'inverse de ce qu'on pourrait faire en temps normal. Donc voilà, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Et puis, on croisait des personnages assez ubuesques. Il y avait, Romain, tu le sais très bien, un amour de Goichi pour le catch et la lucha libre. Et ça se ressentait puisque l'une des personnalités de Smith, c'était justement un catcheur avec une cagoule. Sachant qu'on avait aussi du Sentai qui faisait son apparition en cours de jeu. On avait une petite séquence en mode Japanime. Ça mélangeait énormément de choses, ça partait dans tous les sens. Et ça n'a évidemment pas plu à tout le monde parce que c'était tellement particulier, c'était tellement rigide sur certains points que c'est pas forcément une expérience de gameplay hyper satisfaisante. Mais au moins, c'était une proposition artistique très tranchée. Et je crois que rien que pour ça, quand même, c'est un jeu qui aura un petit peu marqué son époque quand même et qui se destinait aussi à sortir sur GameCube. Donc quand on pense à tout ça, on se dit que forcément les ventes n'ont pas dû être mirobolantes, et c'est sans surprise que Capcom ne s'est plus trop soucié du sort de Killer 7, même s'il est ressorti dans une version remasterisée il n'y a pas longtemps sur PC. Il y a malheureusement très peu de chances qu'on puisse un jour avoir une suite, sachant que de toute façon à l'intérieur du jeu, vous aviez déjà un mode Killer 8 une fois que vous l'aviez terminé. Encore fallait-il pour ça réussir à aller jusqu'au bout, ce qui n'était pas forcément chose aisée.
Oui, il y a une espèce de parallèle à faire avec Deadly Premonition, j'ai l'impression, parce que le jeu est très très difficile d'accès à tous les niveaux, hein, jouabilité, représentation, univers, et c'est là que, de mon côté, je me demande vraiment comment les deux vont réussir à nous faire un truc cohérent avec Hotel Barcelona. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est juste complètement fou que ces deux créatifs-là arrivent à se rencontrer. Et pense à autre chose qu'à picoler, déjà, pour commencer. Et ensuite, pense à faire un jeu ensemble. J'ai vraiment... le résultat, j'ai hâte.
Bah, ça fait projet de bourré, quand même, Killer 7 aussi. Hein. Donc, on va peut-être retrouver un truc assez barré comme ça. Ça sent le pitch de fin de soirée qui, finalement, est allé trop loin et a réussi à sortir.
Et ce qui est assez dingue avec Suda, c'est que... De mémoire, je me souviens pas avoir entendu parler d'un de ces jeux qui a surcartonné en termes de vente, mais le gars continue à réussir à faire financer ses jeux et à travailler sur des projets qu'il passionne. Donc ça, c'est cool pour lui, mais je crois que ces jeux se vendent pas et de manière quasi systématique.
Tu sais, il y a des cinéastes indés, personne ne va voir leur film au ciné, et ils continuent aussi à produire et autres, et ils ont un public. C'est toujours bien d'avoir un public.
Ouais. Il est petit, hein, ce public.
Tant qu'il est là. Voilà, c'est le plus important.
C'est la qualité qui compte, et pas la quantité.
Et je dis voilà. Ça alors que moi, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa manière de toujours intégrer un peu le catch d'une manière ou d'une autre dans ses univers. Ouais, enfin, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait, sauf Lollipop Chainsaw.
Sauf Shadow of the Damned.
Ouais, je pense que c'était pire encore Shadow of the Damned.
Ah, Shadow of the Damned, c'est affreux.
Je l'ai pas fait, mais Lollipop Chainsaw, c'était vraiment pas terrible.
Pour avoir fait les deux, je pense que j'en jouerais plus à Lollipop Chainsaw. Vraiment à choisir, tu vois, un flingue sur la tempe.
Non, moi, ce qui m'avait saoulé avec Lollipop Chainsaw, c'était l'écriture bas du front, genre des gros mots toutes les deux secondes pour montrer qu'on est trop cool et trop extrême et trop décalé. C'était vulgaire pour être vulgaire et je trouvais que ça faisait méga tiède.
Ah bah dans Shadow of the Damned, t'as ça, mais avec des bits. Voilà, il y a des représentations phalliques tout le temps, donc je te laisse imaginer la lourdeur extrême du truc passé quelques heures.
Ouais, bon. Je vois.
Bon, voilà, Suda 51, bon anniversaire à Killer 7 et merci d'être passé. Bon.
Les oreilles
qui soufflent. Comme chaque semaine, évidemment, nous allons passer au hors-jeu. Le hors-jeu, c'est encore une fois Thomas qui s'y colle, puisque Thomas est devenu sérivore, comme vous le savez. Évidemment, non, là, c'est une série sur laquelle il s'est déjà beaucoup exprimé au sein de la rédaction. On est au courant, il n'y a pas de surprise. Thomas va nous parler de Rick and Morty, évidemment. Cette série humoristique, série animée humoristique qui vient de diffuser sa quatrième saison. Si je ne m'abuse.
Oui, et ça faisait quand même un petit moment qu'on l'attendait parce que la saison 3 s'est terminée en octobre 2017. Donc, autant vous dire qu'on a eu le temps de ranger notre frein et d'attendre que cette quatrième saison voit enfin le jour. Et ça y est, non seulement elle est disponible, mais surtout elle est terminée sur sa plateforme d'origine, donc Adult Swim. Mmh. Elle a été diffusée en deux parties. On a eu la première partie à partir du mois de novembre 2019, 5 premiers épisodes. Et là, les 5 derniers qui ont été diffusés, et elle s'est terminée il y a quelques jours. Et est-ce que ça valait le coup d'attendre, me direz-vous? Eh bien oui, assurément oui, parce que Rick et Morty, bah, c'est un peu comme Killer 7, une série qui divise, qui a ses fans, mais aussi ses détracteurs, et dans les deux cas, à juste titre.
Bah, faut dire que Justin Roiland, il a quand même un style très très particulier.
Il a un style très tranché, il a un style qui va à raison pouvoir déplaire à énormément de monde, parce qu'il laisse une grande part de ses dialogues à l'improvisation. Quand on sait que c'est l'acteur qui joue les deux personnages principaux, donc Rick et Morty, forcément, il occupe une certaine place dans la narration et dans le voice-over de la série. Mais si on arrive à passer par-dessus, on va dire, ou à voir le bon dans ce que Roiland a proposé, sachant qu'il n'est pas tout seul, parce que c'est quand même aussi coproduit par Dan Harmon, qui est quand même un des génies de cette époque, je me permets de le dire.
Le showrunner de Community, c'est ça?
Le showrunner de Community, l'ex-showrunner de Feu Community, qui a quand même énormément de bonnes idées à apporter à la série, et qui lui permet aussi d'aborder pas mal de thèmes, parce que Rick and Morty, tu l'as dit, c'est un peu une série humoristique, mais franchement pas que, parce que c'est une série qui fait réfléchir à énormément de choses, alors, qui se moque évidemment beaucoup, hein, parce que on a énormément de critiques de plein de choses, mais surtout, comme on a ce côté SF, où tout peut partir en couille depuis grosso modo le milieu de la première saison, on se demande parfois jusqu'où ils vont s'arrêter, et la saison 4 va dans ce sens-là, puisque ça va souvent toujours plus loin, même si des fois on a des moments de pause pour explorer des moments un petit peu plus particuliers. C'est une saison qui était très attendue, et qui surprend quand même pas mal, parce que on a des classiques, mais on a aussi des moments qu'on n'attendait pas forcément. On a un épisode un peu introspectif où Rick va se lier d'amitié avec un type qu'il déteste de prime abord, mais ça va le rendre un petit peu ouvert. Il va essayer en fait de cacher. C'est un peu particulier. Il essaye de cacher cette amitié en trollant le mec en permanence, mais ça va mal finir. On va découvrir un personnage qui a quand même une âme avec beaucoup de profondeur et qui est aussi en pris de tristesse, et que c'est sans doute pour ça qu'il picole à foison. Mais on a aussi des épisodes qui vont carrément dans la parodie et qui se moquent de certaines séries. Dans la saison 3, on avait eu tout un épisode sur le Marvel Cinematic Universe. Là, c'est la série de Ocean's 11 qui en prend pour son grade, puisqu'on a un des meilleurs épisodes de la saison à tout point de vue, qui est un épisode où en fait, tout était déjà joué d'avance, et on passe grosso modo 20 minutes à découvrir que machin a truandé des trucs, qui avait prévu tel twist, et c'est vraiment délicieux. C'est un épisode qui m'a fait moi pleurer de rire. Il y a un moment donné où c'est tellement ubuesque que j'en ai pleuré. Et c'est vraiment bien fichu, parce que ça fait partie de ces épisodes où la série s'amuse à édicter ses propres règles. Rick dit à un moment donné qu'il déteste les films comme ça de braquage, parce que c'est grosso modo 60% de constitution de casting et 40% où on explique que le braquage a déjà eu lieu. Et du coup, l'épisode opte pour cette forme-là, singe les codes, non sans l'avoir explicité au préalable. Il y a l'un des épisodes aussi où ça commence, où Morty réclame un jouet à Rick, parce qu'il estime qu'il a eu une super idée et qu'on n'écoute jamais ses idées. Et il lui dit, mais je vais pas faire ça, ça a déjà été fait dans Futurama. Et il fait effectivement référence au series final, pour le coup, puisqu'il va finir, sous le coup de la colère, par développer un petit objet qui permet à Morty, en fait, de revenir en arrière, de faire une sauvegarde en fait de la vie réelle et de pouvoir tester tout un tas de trucs. Et c'est un épisode inattendu au découpage assez particulier. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir, parce que ça fait partie de cette deuxième moitié de saison, mais où on a un passage sans parole avec une rupture hyper brutale. Et c'est ce qui fait pour moi le charme de cette série, c'est que on ne sait absolument jamais sur quoi on va tomber quand on lance un nouvel épisode de Rick and Morty. Ça peut partir dans absolument tous les sens, ça peut remettre en cause un personnage où en fait depuis quelques saisons on se rend compte que c'était pas si clair que ça. Il y a énormément de tromperies qui sont générées dans la série, et le dernier épisode de cette saison justement prend le contre-pied de pas mal de choses, puisqu'il s'amuse à faire ce qu'il dénonce en permanence, c'est-à-dire écouter les fans. La série, la plupart du temps, explique de manière sous-jacente que non, on a déjà fait tel truc, vous avez aimé, d'accord, mais on va pas le refaire, parce que refaire la même chose, c'est chiant. Et là, pour le coup, ils font un espèce de contre-épisode où ils vont glisser des dizaines et des dizaines de références à tout un tas d'événements qui se sont passés dans les trois premières saisons, à faire revenir tout un tas de personnages, et à nous surprendre, puisque, une fois de plus, la fin du dernier épisode nous laisse très interrogateurs sur la suite, ça chamboule pas mal de choses, et on se demande forcément comment la série va continuer à pouvoir évoluer à ce rythme-là, parce que ça part dans tous les sens. J'en parlais avec un de nos collègues de ciné-série. Quand tu finis un épisode de Rick and Morty, t'es un peu lessivé quand même, parce qu'il s'est passé tellement de choses en 20 minutes qu'il faut pouvoir le digérer, il faut souvent pouvoir le revoir, parce qu'il y a eu tellement de choses qui étaient distillé avec finesse, ou dans les décors, ou dans un dialogue qui n'était pas mis en avant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher, et malgré le fait qu'on ait que 10 épisodes une fois de plus dans cette saison 4, ce sont 10 épisodes d'une grande qualité, avec beaucoup de choses à en retirer sur le plan narratif. Puis c'est une série qui s'amuse énormément aussi à jouer avec la temporalité de sa narration. Comme Futurama, il y a des fois où on est complètement trollé parce que l'épisode veut bien nous montrer qu'il va être complètement différent finalement. Bref, si vous arrivez, comme tu le disais mon cher Plume, à passer au-dessus du jeu de Roiland qui a un verbe un peu particulier, qui peut vraiment agacer.
Et côté aussi... hystérique parfois.
Oui, côté hystérique.
Ça parle en même temps tout le temps aussi avec lui. Hein.
Oui, alors ça pour le coup c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça assez réaliste, on retrouve ça dans Bob's Burgers dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps, les personnages se mangent un petit peu leur réplique comme dans la vraie vie finalement, on a quelque chose de pas très très propre, le seul truc que j'aimerais le voir vraiment laisser de côté, c'est son côté scatophile, parce que quand t'as eu un super épisode et que ça se termine sur une blague avec du caca... Tu te dis, non, mais quand même, il y avait autre chose à faire. Quoi. C'est un petit peu dommage, ça casse un truc. Alors, c'est évidemment pas la majeure partie, mais voilà, c'est bien. Voilà, ils ont fait des trucs scato. Maintenant, ils pourraient peut-être passer à autre chose. Ça fait un paquet d'années que la série existe. Je pense qu'on peut être en mesure d'espérer peut-être un petit peu mieux.
T'es pas au bout de tes peines. Hein. South Park, c'est pareil. Ils font des trucs géniaux, super intelligents, etc. Mais au moins une fois par saison, tu as un épisode scato où c'est répugnant tellement il y en a partout et ça parle que de ça. S'il est dans ce délire-là, ça risque pas de le quitter malheureusement.
Bah, j'en ai bien peur, ouais, parce que c'est... Alors là, pour le coup, c'est pas un épisode par saison, mais tu peux être sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un truc vraiment très sur le caca. Et bon, t'attends que ça passe et tu te dis, pourvu que ce soit le seul cette année... Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié les trois premières saisons, si vous attendiez la quatrième avec beaucoup d'impatience, ça valait le coup. C'était, ça valait l'attente, 3 ans d'attente pratiquement pour voir la suite. C'est une quatrième saison très riche en rebondissements qui atteste une fois de plus du talent parfois insolent de Roiland et Harmon quand ils travaillent ensemble. Je ne sais pas quand on verra la suite puisque, a priori, ils ont signé jusqu'à la saison 10 pour le moment. Mais vous pouvez en profiter alors dès maintenant si vous avez l'accès à Adult Swim sur vos box. Mais, comme la vie est bien faite, la série finit toujours par arriver sur Netflix. Si vous ne connaissez pas la série, que vous avez envie de la découvrir, bah les 3 premières saisons sont déjà disponibles sur Netflix. Et la première moitié va arriver à partir du 16 juin, donc vous aurez les 5 premiers épisodes, qui sont déjà très très bons. Y a même un épisode, je conclue là-dessus, sur la deuxième partie, qui est extrêmement méta, Harmon oblige, puisqu'il y a un épisode entier sur la construction d'un épisode de Rick et Morty. Voilà, l'épisode en fait raconte comment on crée un épisode, mais de manière détournée, avec un final foutage de gueule envers la religion qui est assez caustique, on va dire. Bref, il y a énormément de thématiques, ça part dans tous les sens. Si vous êtes client, allez-y, foncez. Par contre, si vous ne connaissez pas la série, ça va être très 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 compliqué de commencer par la saison 4 parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'il faut quand même reprendre depuis le début. Si vous n'avez pas revu la saison 3 aussi depuis sa diffusion en 2017, regardez-la une nouvelle fois parce que vous allez passer à côté de quelques trucs quand même. Bref, vous l'aurez compris, en tout cas, si vous aimez le style, c'est vraiment génial. Moi, j'ai passé un excellent moment et j'attends déjà la saison 5 avec énormément d'impatience.
Très bien, donc Rick and Morty, saison 4, vous avez les 3 premières sur Netflix et la 4e, Adult Swim, évidemment. Messieurs, je crois que nous en avons terminé avec ce podcast. Nous avons couvert tout ce que nous avions à couvrir. C'est donc la fin, tout simplement. Merci Yann, merci Thomas, merci Romain, merci Poufy, toi qui nous arrose de tes sons et de tes rires comme chaque
qui
semaine.
Qui rigole par intermittence.
Voilà. Vous l'avez entendu rire cette semaine, moi non.
Non, pas aujourd'hui.
Moi je l'ai entendu.
Ah bah écoute, ah là oui,
ça y est. On a un petit bruit là.
Oui, ça pourrait être un chien aussi à côté du micro qui renifle. Hein. Ça
soit ça, soit il est en train de pleurer.
Ah, c'est peut-être ça aussi, Marc. Merci à vous en tout cas pour cette aide appréciable pour ce
podcast.
Et merci
à toi, mon cher Plume.
Et merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, évidemment. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos remarques dans les commentaires ci-dessous. La semaine prochaine, est-ce que je peux déjà parler de la semaine prochaine? On est le combien? On est le 1? Ok, la semaine prochaine.
Ce sera bon.
Donc, la semaine prochaine, on va normalement pouvoir parler de The Last of Us Part 2. Voilà. Oui. L'annonce, comme ça c'est fait, mais il y aura sûrement plein d'autres choses, puisque comme vous le savez, il y a eu pas mal de décalages dans les événements en ligne, les présentations, à 2h du mat ou je sais pas quelle heure. Bref, on va bien s'amuser avec tout ce qui a été prévu pour les prochains jours, les EA Play et d'autres, j'en passe, les Summer Game Fest, les j'ai même plus tous les noms en tête.
Summer Gaming, Future Games.
Voilà, donc parce avec là, tout ça...
Là, techniquement, enfin, normalement, on serait à la veille de l'ouverture de, du salon. Là, on aurait les dernières non. conférences aujourd'hui.
Non, Romain, tu serais en tôle. Tu serais en tôle avec... avec ton panneau Black Lives Matter qu'on t'a refilé alors que tu n'étais même pas dans le coin, tu serais en tôle et puis c'est tout. Voilà.
Non, par la propriétaire de notre Airbnb.
Ouais, voilà,
qui exactement. Qui nous aurait emmené en manif avec des culottes à message, ouais. Laissées soigneusement dans le frigo avant notre arrivée.
Eh oui, malheureusement, non, vous n'êtes pas à l'E3, mais on va vivre quelque chose qui sera à peu près équivalent en ligne, en tout cas en termes de proportions, ça devrait être le cas dans les prochains jours. Donc restez sur Gameblog, il va y avoir de l'actu, il va y avoir du jeu, il va y avoir des tests, évidemment. Et si on y arrive, il y aura peut-être même des lives, si on y arrive.
Donc, il va y avoir des cernes aussi.
Oh là là, les cernes, n'en parlons pas. Je marche déjà dessus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Bisous, bisous.
Ciao. Bye, bisous.